France Culture.
À voix nue avec
Alain Minc.
Épisode 3, l'ombre des puissants. Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Merci de nous recevoir pour ce troisième épisode dans votre bureau situé dans une artère cossue de la capitale, non loin de la place de l'Étoile. J'imagine que beaucoup de politiques, de patrons sont venus ici.
Et aussi beaucoup de copains et beaucoup de syndicalistes. Voilà, oui, c'est comme un petit studio de psychanalystes de luxe.
Alors c'est ça, c'est un peu de la psychanalyse de luxe. Il y a un grand canapé et puis c'est un peu au cœur de la ville. Et lorsqu'on évoque la manière dont vous avez conquis la ville, on pourrait par exemple commencer par Le Monde, qui est incontestablement un centre du pouvoir à Paris, au cœur de la ville. En 1986, Alain Minc, vous rentrez dans le conseil de surveillance du journal Le Monde.
Non, en 1986, je prends la présidence de la Société des lecteurs du Monde, faite pour lever de l'argent, pour aider le monde. Et à ce titre, évidemment, j'entre au conseil de surveillance du journal, mais dont nous n'étions qu'un petit actionnaire.
Pourrait-on dire, Alain Minc, que votre conquête de la ville, elle a débuté lorsque vous êtes devenu président de la Société des lecteurs du Monde ?
Non, ça avait commencé avant. D'ailleurs, on m'a proposé d'être président de la Société des lecteurs du Monde, André Fontaine. Ce grand journaliste devenu, dans une situation de désespoir du monde, le directeur, avec la finalité de sauver ce journal, de prendre la présidence d'une Société des lecteurs du Monde pour lever de l'argent parmi les lecteurs, dans une opération de sauvetage qui a d'ailleurs réussi. On avait fait une journée porte ouverte au monde où il y avait eu, je crois, 10 ou 15 000 personnes qui s'étaient présentées. Mais la presse pesait plus dans la société. Le monde dominait la presse bien plus qu'il ne la domine aujourd'hui. Et il y avait un côté œuvre de salut public à essayer de sauver ce journal qui était devenu moribond. Après, il faudra se demander pourquoi il était devenu moribond, c'est-à-dire par la perversité que son système d'autogestion impliquait.
Pourquoi, justement ?
Le problème, c'est que... Enfin, c'est très loin et il y a eu d'énormes changements depuis dans la structure du monde. Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, la deuxième personne à m'avoir tenu, après, je l'ai dit, le directeur de Sciences Po, le même genre de propos antisémites. Quand je suis devenu président de la Société des lecteurs du Monde, je fais une visite de courtoisie à la statue du commandeur, qui était dans un petit bureau au cinquième étage de la rue des Italiens, au-dessus des rotatives, puisque c'était ça un journal à l'époque. Et il me dit, je suis très content que pour la première fois, un Israélite ait une position importante dans ce journal. Et là aussi, c'était vraiment bien intentionné. Mais c'était la même matrice idéologique que Jacques Chapsal. Et c'était le problème de quelqu'un qui avait fréquenté les chantiers de jeunesse et qui, d'une certaine façon, n'arrêtait pas d'essayer d'expier. Et il avait été amené, face à des attaques capitalistes sous la Quatrième République, à donner le pouvoir, en réalité, à la Société des rédacteurs du Monde. Or, autant je suis un partisan acharné du droit de veto des journalistes sur la désignation et la révocation de leur chef, autant je pense que c'était une folie de donner aux journalistes la mainmise sur la gestion de l'entreprise. Et le résultat était que le journal était allé jusqu'à la faillite. Alors après, il y a eu des étapes successives. Il y a eu, en 1985-86, une levée de fonds auprès des lecteurs et au prix d'entreprises qui faisaient un geste de bienfaisance, en réalité. Ça a tenu jusqu'en 1994, où il y a eu une nouvelle crise, où on a levé à nouveau de l'argent, où on a modifié les structures capitalistes du journal. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu président du conseil de surveillance, et je l'ai été jusqu'en 2007.
On se souvient d'un étrange triumvirat, maintenant il paraît étrange, avec Edwy Plenel et Jean-Marie Colombani.
Oui, mais le redressement du monde s'est fait... Sur le plan capitaliste, j'ai apporté ma petite contribution en restructurant l'actionnariat. Le patron élu du journal, c'était Jean-Marie Colombani, qui n'a pas cessé d'être élu jusqu'en 2007. Et en 2007, ce sont des statuts totalement délirants et qui exigeait que le directeur ait 60% des inscrits. Or, il avait eu plus de la majorité, mais pas 60%. Il avait dû quitter ses fonctions. Et pour redresser le journal, il a fait appel à un immense journaliste qui était Edwy Plenel.
Dites-nous, Alain Minc, quelles étaient les discussions que vous aviez avec Edwy Plenel ?
Elles étaient plutôt bonnes et amicales à l'époque. Nos itinéraires étaient très différents, évidemment. Moi, j'ai jamais flirté avec le trotskisme. J'ai jamais flirté non plus avec son côté Peggy. Et d'une certaine façon, c'était quelqu'un qui a fait à un moment des coups journalistiques qui étaient nécessaires pour redresser le journal. Et puis après, il a été emporté par son hubris. Et puis, après la dernière séance où j'ai négocié avec lui son indemnité de départ, nous nous sommes recroisés qu'une ou deux fois sur des plateaux de télé.
Pourquoi avez-vous divorcé avec lui ?
Parce que la rédaction ne voulait plus de lui. C'est tout. C'est-à-dire que c'était un moment où il avait commencé à aller trop loin dans la prise de pouvoir trotskiste de la rédaction.
Alors, il y a eu un événement clé qui était un livre qui, à l'époque, a fait énormément de bruit, qui était La face cachée du monde, où ce livre accusait, donc ce triumvirat que vous formiez avec Colombani et Plenel, de 1000 turpitudes. Vous, vous étiez un baladurien et les autres étaient des francophobes.
Oui, enfin, j'étais d'ailleurs des trois cibles, celle qui a été la plus préservée, ne serait-ce que parce que des trois, mon rôle était le moins visible journalistiquement. Je veux dire, la réalité, c'est que la protection de l'indépendance journalistique faisait que je n'avais pas de poids sur la rédaction. Je pense que le livre de Péan était quand même extraordinairement excessif. Il pointait quelques dérives qui ont eu lieu. C'est vrai qu'il y a eu des dérives. C'est vrai, par exemple, que si on réécrit l'histoire, le traitement par le monde de l'affaire Baudis, qui était à l'époque maire de Toulouse, etc., des accusations répétées par le correspondant local du Monde, protégé par Plenel au nom de Vieille Solidarité, étaient scandaleux. Donc il y a eu une vraie dérive.
Monsieur Dominique Baudis a été calomnié, je le rappelle.
Mais calomnié est au vu et au su du pays. Il a dû aller au journal de TF1 pour s'expliquer. On voyait la sueur perler sur son front. Et c'était de pure calomnie, l'expérience l'a montré. Donc il y a eu un certain nombre de dérapages qui n'étaient plus supportables. Il y a eu deux époques sur ces 14 ans ou 12 ans avec Plenel. Au début, à force de coups journalistiques, il a redressé les ventes du journal. Or, un journal, c'est fait pour être vendu. Et puis ensuite, pris par le plaisir du pouvoir que la tête de ce journal donnait, son naturel est revenu au galop, c'est-à-dire ce mélange de coups et de provocations. Et Péan a mis un microscope pour les grandir, mais il y avait un peu de matière, oui.
Il y avait aussi une forme parfaitement légitime, mais accusée d'anti-mitterrandisme dans les directions journalistiques prises par Le Monde.
Oui et non. C'est toujours le souvenir, en réalité, de l'hostilité viscérale de Plenel à l'égard de François Mitterrand, à cause du fait qu'il avait été écouté de manière scandaleuse et abusive. Et j'étais allé témoigner au procès en sa faveur, procès qu'il avait entamé à cet égard. Jean-Marie Colombani n'était pas un anti-mitterrandiste viscéral, en aucun cas. Et quant à moi, je n'avais pas d'opinion spécifique qui pouvait prévaloir sur la rédaction. Quand j'ai dit que je votais pour Édouard Balladur en 94, ça n'a pas converti le monde au balladurisme. Même si, en effet, il y a eu un procès en balladurisme fait au Monde. Et quant à François Mitterrand, quand le problème de la nomination d'un nouveau directeur au Monde s'est posé en 94 et qui aboutit à l'élection de Colombani, Mitterrand me disait « Vous n'arriverez à rien avec ces catholiques ».
Ce qui était une analyse particulière du phénomène, mais vous parlez de la griserie qu'Edwy Plenel avait pu ressentir lorsqu'il était à la tête du Monde. Et vous, puisque ce qui a été dit, ou ce qui a été décrypté ensuite, c'est que le monde a été une étape dans votre manière de conquérir...
Je pense que c'est assez faux. Je pense que j'ai piqué plus d'argent à mes amis capitalistes pour redresser le monde en usant de ma position pour le monde que, d'une certaine façon, ça ne m'a servi. Je pense d'ailleurs, à cet égard, que j'ai rendu un mauvais service au monde parce que, à force de faire entrer de l'argent, les journalistes ont cru que les fins de mois étaient à tout jamais garanties et le réveil de la réalité a été assez rude. Alors après, j'ai quitté le monde en 2007, Louis Schweitzer m'a succédé et il y a eu une nouvelle crise, 2010 ou 2011, et à ce moment-là, j'étais en soutien de la tentative de prise de contrôle du monde par le tandem formé de Claude Perdriel et Del País, dont j'étais un administrateur. Opération où le banquier qui nous aidait était Emmanuel Macron. Et nous avons été écrabouillés par un triumvirat fait de mon ami Pierre Berger, de Xavier Niel et de Mathieu Pigas. D'abord, ils ont été meilleurs que nous dans leur campagne. Deuxièmement, ils étaient sur le plan financier beaucoup plus crédibles par les montants qu'ils mettaient. Et troisièmement, ils ne voulaient reprendre aucun pouvoir aux journalistes, alors que nous, nous disions qu'on leur enlevait la gestion de l'entreprise, mais qu'on leur laissait le droit d'approbation et de révocation du directeur de la rédaction. Donc ils ont été politiquement plus habiles, plus d'argent, plus de concessions, la matrice de la politique. Et ils ont fait un très bon boulot. Enfin, c'est-à-dire Xavier Niel a rendu un grand service au monde.
Je me doutais que vous n'alliez pas me dire que le monde avait été le signe de votre conquête du pouvoir, mais en fait, on se dit que si on prend les personnes qui comptent dans la ville, en France, il y en a peu que vous n'ayez pas rencontré à la main, que vous ne connaissiez pas de manière assez proche.
Oui, mais c'était une époque lointaine où on pouvait vendre beaucoup de bouquins. J'avais fait des essais qui s'étaient vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et la France fonctionnait ainsi que quand vous vendez un livre ou un essai à 300 000 exemplaires, vous êtes au cœur du système. C'est le côté d'ailleurs respect des bouquins qui est l'apanage de la société française, ou qui l'était.
On va reparler effectivement de vos livres qui ont eu une grande importance, si bien qu'en 1995, le magazine Le Débat, qui était une revue intellectuelle extrêmement lue.
À la fondation duquel j'ai été partie prenante, dans l'équipe qu'avait constituée au début autour de Pierre Nora, d'abord lui et Marcel Gauchet, puis toute une série de gens.
Et Le Débat a fait un numéro qui a beaucoup fait parler, qui s'intitulait « La pensée minque ».
Oui, mais ça, c'était parce que dans les mois qui avaient précédé, j'avais présidé une commission à l'initiative d'Édouard Balladur en 94 qui allait de la CGT jusqu'au patronat sur les défis de la France de l'an 2000, qui avait donné lieu à un rapport qui s'était beaucoup, beaucoup vendu, qui était perçu comme la doctrine balladurienne. Ce qui était, je trouve, assez réducteur, parce que le même rapport aurait pu servir de doctrine à Jacques Delors s'il avait été candidat, et qui était en effet l'expression de ce que j'ai appelé à l'époque le cercle de la raison. C'est à l'occasion de ce rapport que, dans une émission, je crois, de télé, j'ai expliqué que ce bouquin, ce rapport, était la pensée du cercle de la raison. Et donc, on avait soulevé un certain nombre de thèmes qui sont encore d'actualité, dont le débat équité, égalité, mais que j'avais déjà abordé dans un de mes bouquins qui s'appelait « La machine égalitaire ». C'est-à-dire que l'immense machine à redistribuer française crée une redistribution aveugle à l'intérieur de la classe moyenne et, d'une certaine façon, ne sert pas à sauvegarder les plus nécessiteux.
C'est peut-être à ce moment-là que l'on a considéré qu'Alain Minck n'était plus seulement une personne, pas seulement une pensée, que c'était une forme de symbole. Et par exemple, vous êtes devenu, pour le monde diplomatique, une forme d'antithèse du monde auquel le monde diplomatique aspirait, aspire encore.
Oui, bah, en plus, dans la forme de statut extraterritorial qui était celle du monde diplomatique vis-à-vis du monde, faire du président leur actionnaire, leur bouc émissaire, en toute liberté, c'était symboliquement satisfaisant pour eux et au fond assez gratifiant pour nous, ou pour moi, puisque c'était la mesure de la liberté que nous leur avions très normalement octroyée.
Mais alors, est-ce que c'était fondé, est-ce que vous considérez qu'il y a effectivement incompatibilité entre les thèses que développait, que développe encore le monde diplomatique et votre vision du monde,
alors ? Total, total. Je veux dire, enfin, le monde diplomatique n'est plus aujourd'hui ce qu'il était à l'époque. Désormais, tout ça s'est déplacé et s'est réfugié quelque part dans le chaudron idéologique qui boue autour du mélenchonisme. Oui, il y a une divergence totale, une divergence économique, une divergence politique et une divergence philosophique. La divergence économique, c'est leur négation du principe de réalité. C'est d'autant plus frappant qu'en fait, Mélenchon comprend assez bien l'économie capitaliste. D'ailleurs, il a raison, pour la combattre, il vaut mieux la comprendre. Il est dans une stratégie politique et la négation économique participe de sa stratégie politique, qui est une stratégie à sa manière de prise de pouvoir, qu'il a tenté électoralement. C'est-à-dire, au fond, il y a deux définitions de la démocratie. Il y a ceux qui disent la démocratie, c'est le suffrage universel, point final. Et il y a ceux qui pensent que la démocratie, c'est le suffrage universel et un jeu de pouvoir et contre-pouvoir qui sont la garantie de l'équilibre de la société. C'est une vision tocquevillienne. C'est un clivage très très profond dans la société française. Quelqu'un comme Philippe Séguin, par exemple, n'acceptait pas l'existence des autorités indépendantes. Il était sur la vision uniquement suffrage universel. Et c'était un clivage qui, dans les années 90, s'était résumé par l'articulation républicain-démocrate. Les républicains disaient « il n'y a que le suffrage universel » et les démocrates disaient « le suffrage universel plus les pouvoirs et les contre-pouvoirs ».
Mais alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que parmi les nombreux articles que le monde diplomatique a consacrés à votre présentation du monde, Alain Minc, j'en ai trouvé un d'Ignacio Ramonet en 1994. Dans cet article, Ignacio Ramonet utilisait le terme de pensée unique qu'il vous a attribué. Et alors, il citait à la fois ce rapport que vous avez fait pour Édouard Balladur, qui en était évidemment l'illustration, mais l'autre personne qui était mise à l'honneur était Dominique Strauss-Kahn, et notamment au travers d'une phrase, on lui avait posé la question, dit Ramonet, qu'est-ce qui va changer si la droite l'emporte ? Et Dominique Strauss-Kahn avait répondu, rien, leur politique économique ne sera pas très différente de la nôtre.
Oui, bien sûr, c'était la vérité. Si Jacques Delors s'était présenté à l'élection présidentielle de 1995, le débat Delors-Balladur aurait été un débat à l'allemande, entre les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates. Je suis de ceux, peut-être à tort, qui considèrent que c'est un progrès démocratique. C'est-à-dire, quelle est la différence entre les partisans de l'économie sociale de marché et les partisans de la social-démocratie ? Il n'y en a qu'une. Les partisans de l'économie sociale de marché traitent avec les syndicats et font les concessions requises. Les sociaux-démocrates partagent le pouvoir avec les syndicats. Mais à l'intérieur d'un espace où on accepte les contraintes de l'économie et où on essaye de les amodier à la marge.
Mais alors justement, parce que l'autre élément dans ce que disait Ramonet à l'époque, et le raisonnement est transposable aujourd'hui dans un certain nombre d'autres supports, consiste à dire que dans ces conditions, Alain Minc et les siens confisquent la démocratie en donnant en quelque sorte des non-choix au peuple.
Ben, c'est en effet l'application du principe de Madame Thatcher, allez-vous me dire. Tina, vous savez, c'est « there is no alternative », qui était la définition du thatcherisme. D'abord, je crois que c'est faux, parce que je pense que l'alternative social-démocrate, économie sociale de marché, est une alternative qui correspond à une distribution différente à l'intérieur de l'acceptation des contraintes. Et puis, de toute façon, puisque vous parliez de pensée unique, oui, à l'époque, nous étions la pensée dominante. Aujourd'hui, nous sommes devenus la pensée minoritaire. C'est-à-dire, il faut bien être lucide. La pensée unique, elle est passée chez les autres. C'est-à-dire, dans un pays où vous avez quand même, grosso modo, 2/3 de la représentation nationale qui additionne les populistes des deux camps, et avec les points communs qu'ils ont entre eux en termes de souverainisme, en termes de refus de l'Europe, en termes de refus de l'Alliance Atlantique, en termes de refus de ce qui est notre identification au modèle occidental classique, ils ont la main.
On a parlé de vos lectures de Marx, Alain Minc.
Je pense que je reconnais plus le jeu des classes sociales que les épigones des insoumis. C'est-à-dire, je crois à la réalité des classes sociales. Je pense que la social-démocratie était l'expression des compromis de classe, mais c'est une approche du monde qui n'a rien à voir avec la chaîne de solidarité que ceux dont on parle, et qui en France représentent ou les insoumis ou les écolos de gauche, etc., c'est-à-dire l'espèce de continuité des victimes qui part des femmes... Je suis tout à fait féministe, mais je crois pas que la solidarité des victimes, le féminisme, les transgenres, les musulmans, le tout dans un refus des dominants qui s'assimilent à l'Occident, et refus de l'Occident qui s'assimile en réalité au dérapage antisémite auquel on assiste.
Mais alors justement, si Bourdieu était là, lui disait que les dominants ne pouvaient pas aller à l'encontre des structures de domination puisque celles-ci leur profitaient. Est-ce que finalement, comme vous êtes en haut de la pyramide, Alain Minc, vous ne pouvez pas finalement critiquer ce système qui vous a élu ?
Oui, mais Bourdieu, avec lequel j'ai eu des affrontements, est quand même un penseur, à mes yeux, très important. Et Dieu sait si je l'aimais pas non plus comme homme. Je trouve que c'était un type d'une espèce de violence intérieure, de la manière dont il assurait une dictature au Collège de France, une capacité de maîtrise du pouvoir digne du léninisme de la haute époque. Mais Bourdieu a inventé quelque chose, et quelque chose de clé qui s'appelle le capital culturel. Et je pense que le concept de capital culturel est un concept extraordinairement utile pour expliquer les hiérarchies sociales. Donc c'est d'une certaine manière une excroissance très intelligente du marxisme. Je ne peux pas faire plus bel éloge d'un adversaire.
Alors dans ce cas-là, je vais vous demander où est-ce que vous vous séparez de lui puisque vous...
Mais sur l'analyse en jeu de classe, je ne me sépare pas. Je crois qu'il y a des classes sociales. Je dis que ce à quoi on assiste aujourd'hui idéologiquement n'est pas du tout une analyse de classe sociale. La chaîne victimaire, c'est l'antithèse des classes sociales.
Mais Bourdieu n'aurait évidemment pas nié cet affrontement de classe, il aurait juste dit que vous apparteniez à la classe
dominante. Mais j'appartiens à la classe dominante, c'est une évidence. Mais je suis pas du tout sûr que Bourdieu...
Vous êtes aveugle à l'idéologie de la classe dominante.
Non, mais attendez, on va pas faire parler les morts par définition, mais je suis pas du tout convaincu que Bourdieu aurait été le philosophe ou le penseur de la chaîne victimaire.
Cette chaîne victimaire, elle marque un renversement. Elle marque aussi un renversement pour les Juifs qui étaient de gauche, qui sont devenus, disent beaucoup, de droite, voire encore plus de droite, je pense à Éric Zemmour, et un certain nombre de virages idéologiques que vous avez évidemment incarnés, puisque pour Ramonet et les siens, vous avez incarné cette forme de pouvoir dit libéral.
Votre question mêle plusieurs sujets, hein. Je m'exprimerai à partir de la définition à laquelle je tiens, que je fais de ma proposition, où je dis dans l'ordre des mots « européen, virgule, français et accessoirement juif ». Donc il faut quand même s'exprimer à partir du lieu où l'on est, et je veux rappeler le lieu où je suis. Européen, français et accessoirement juif. Mais je pense qu'en réalité, la chaîne victimaire telle qu'elle sort de l'idéologie mélenchoniste, si je puis dire, explique l'antisémitisme, puisque les victimes doivent se dresser contre l'oppresseur occidental, et l'expression ultime de l'occidentalisme, c'est par une espèce de concrétion qui rappelle tout un itinéraire qui a été l'itinéraire de la pensée antisémite, ce sont les Juifs. Donc tout ça est très logique. En revanche, Je crois que par rapport à ce que vous citez, la période Ramonet, on sait très loin tout ça. C'est il y a 30 ans. Je pense que le champ idéologique a complètement changé. Au fond, le débat avec les Ramonet de l'époque était un débat classique, dans un espace très marqué par l'héritage marxiste, hein, clairement. Aujourd'hui, on en est très loin. Je veux dire, la pensée globalisante à la Marx est totalement loin de l'espèce d'ébouillantement idéologique auquel on assiste.
Pourquoi ne pas avoir choisi Tocqueville? Tout simplement, pourquoi ne pas avoir choisi Aron?
J'adore Furet et je n'ai jamais été profondément aronien. D'abord, je trouve qu'il y a une grande différence, c'est que Furet écrivait merveilleusement bien et que Aron pensait juste et écrivait mal. Ce qui change quelque chose dans l'agrément de lecture. Oui, non, Aron connaissait Marx, mais Barre connaissait Marx. À l'époque, tout le monde connaissait Marx. Je pense qu'Aron était un esprit très puissant. Je trouve pas que c'était une personnalité séduisante.
C'est vrai, pourquoi ?
Cette espèce de posture en réalité, en majesté. J'ai jamais été gaulliste et j'ai regretté a posteriori de pas l'avoir été. Mais je trouve quand même que d'être à Londres et de pas être gaulliste, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous trouvez pas ?
Ça veut dire que c'était un intellectuel critique, c'était non, l'esprit non, mais, qui toujours nie.
Non, mais je trouve que c'est une vraie interrogation. C'est-à-dire, évidemment, en étant à Londres, Aron avait choisi le bon côté. Il n'était pas comme ces parlementaires socialistes élus dans l'Assemblée du Front Populaire et qui votent les pleins pouvoirs. Mais vous étiez à Londres, en plein combat, et vous arriviez à vous distancier de celui qui était quand même l'expression de ce combat. Personnage bizarre, Aron. Mais j'ai peut-être tort, je ne l'ai pas connu assez. J'avais pas de sympathie, mais peut-être avais-je tort. Moi, j'avais été très surpris de l'espèce de résurgence juive d'Aron en 67. C'est-à-dire, quand il écrit son bouquin et qu'il réagit si violemment à la phrase de De Gaulle, « Peuple d'élite, sûr de lui et dominateur », phrase à laquelle la meilleure réponse était celle du dessin de Tim dans l'Express, avec le type dominateur avec un pied sur les barbelés du camp. Mais je pense très profondément que la phrase de De Gaulle n'était pas une phrase antisémite. Ça, je le pense très profondément. Je crois que De Gaulle croyait au creuset français d'assimilation.
On n'en veut pas à De Gaulle, mais on a des lettres de lui sur vos ancêtres, qui étaient des lettres peu amènes, les lettres qu'il envoyait quand il était en Pologne pendant la guerre de 14-18 à sa mère.
Mais ça, alors, j'ai lu récemment le journal de guerre de Jules Janney. Jules Janney, président du Sénat, personnalité incontestable, qui passe la guerre à Vichy, ne collaborant pas avec le régime de Vichy, mais qui quand même y est, et que De Gaulle nomme vice-président du Conseil en 1944. Je peux vous dire que les pages de Jules Janney, pendant le mois d'octobre 40, qui suit l'édiction du statut des Juifs, c'est pas très agréable à lire. Et je pense que c'était en réalité l'air ambiant. Jules Janney n'était pas un antisémite par définition militant. De Gaulle appartenait à la même matrice. Je veux dire, il faut remettre les choses dans les circonstances de pression et de température, comme on dit en physique de l'époque.
Merci Alain Minc, à demain.
C'était À Voix Nue avec Alain Minc. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Julien Girard. Chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série de Guillaume Erner, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.